Donc, je demande aux étudiants qui travaillent sur le cas de Blois de bien vouloir venir et de nous présenter. Alors, c'est un pré-résultat, hein, puisqu'ils ont commencé par faire l'analyse des PLU avec la grille d'analyse qu'on a faite avec le programme de recherche, grille d'analyse que j'ai dû mettre en ligne sur le site internet de mémoire. Et à partir de là, donc là en ce moment, ils sont en train de faire des entretiens avec les acteurs de terrain pour peaufiner cette analyse et aller un petit peu plus loin. Donc c'est un travail en cours qui n'est pas terminé et qui sera soutenu au mois d'avril. Je vous laisse la parole.
Donc, bonjour. Donc, oui, on a travaillé sur le PLU de Blois. En ce qui concerne Blois, donc c'est le chef-lieu du département de Loir-et-Cher. Sur donc 37,5 km², environ 45 000 habitants, et fait partie de la communauté d'agglomération de Blois. Il est inclus dans le SCOT du syndicat intercommunal de l'agglomération blésoise. En ce qui concerne donc son contexte institutionnel, donc depuis la loi SRU, comme on le sait, les postes sont en voie de disparition. Donc ils ont élaboré par une délibération du conseil municipal le PLU, qui a comme caractéristique de protéger le patrimoine paysager et le petit patrimoine, comme ils le décrivent. Il y a un titre entier donc sur les dispositions applicables au patrimoine bâti et urbain. Après, on a fait une rapide chronologie sur les documents d'urbanisme de la ville de Blois. On peut voir que... C'est que c'est à partir de 1970 qu'il va être pris en compte l'importance de protéger le patrimoine. On voit donc un secteur sauvegardé en création qui sera approuvé donc 26 ans plus tard. Le poste sera approuvé en 1983 et en 2013, il sera remplacé du coup par le PLU. Il faut savoir que donc la Loire est classée depuis 2000 au patrimoine de l'humanité, mondial de l'humanité.
Donc, sur le territoire blésois, on s'est aperçu au cours de nos recherches qu'il y avait déjà un certain nombre d'outils de protection et de valorisation du patrimoine. Donc, un secteur sauvegardé, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est un label, puisque c'est situé dans le Val de Loire, des sites inscrits, enfin un seul, un, et classés des monuments historiques inscrits et classés, ainsi qu'un plan paysage. Donc, ici, on a un exemple de document graphique qu'on peut trouver dans le PLU. Donc, on s'aperçoit bien qu'avec les zones rouges, on a les servitudes d'utilité publique des monuments historiques qui sont concentrées dans le centre-ville. Donc, c'est le périmètre du secteur sauvegardé, surtout. Et puis, on va avoir aussi, dans ce périmètre-là, tout ce qui touche au patrimoine naturel. Voilà. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait une forte volonté de préservation du patrimoine dans ce PLU. Donc, l'objectif majeur, c'était de valoriser le patrimoine afin de renforcer l'attractivité touristique. Donc, on a mis pour ça l'accent dans ce document sur deux axes. Le patrimoine paysager, donc l'axe 3 du PADD, qui se nomme Blois, une ville paysage, ainsi que le patrimoine bâti architectural. Donc, surtout le patrimoine historique comme le château, la cathédrale. Ensuite, on s'est aussi aperçu que le PLU en fait intégrait complètement les différents outils que j'ai cités précédemment. Donc, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, secteur sauvegardé et les différents classements. Voilà.
Donc, du coup, moi je vais aborder le patrimoine paysager qui a été fortement pris en compte dans le PLU. Donc, il est protégé à l'article 6 du titre 2, donc, qui est relatif aux éléments naturels et paysagers remarquables. Donc là, il y a une typologie qui a été mise en place. Donc là, elle se base sur l'article L130-1 du Code de l'urbanisme, anciennement L130-1, et l'article L123-1-5-7 du Code de l'urbanisme, un peu long à dire, mais. Et donc, du coup, là, il y a une typologie qui a été mise en place. Donc, les espaces boisés classés existants ou à créer, les secteurs parcs existants, les secteurs d'intérêt paysager existants, les secteurs jardins existants, les alignements d'arbres, les arbres remarquables et les cheminements piétonniers. Donc, après, pour être un peu plus précis, là, il y a des prescriptions qui sont faites Donc là, pour recadrer, là, c'est applicable à toutes les zones du PLU, ces prescriptions. Et donc, du coup, les prescriptions vont aller fixer, on va dire, de manière un peu dure pour certaines, de la protection du patrimoine paysager. Donc là, on peut voir notamment qu'il est notifié sur les espaces boisés classés une interdiction. Donc, ils sont notamment interdits les recouvrements du sol par tout matériau. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est assez dur. Après, on a un pourcentage qui est fixé, par exemple, pour les secteurs parcs, avec au moins 95% de la superficie du secteur parc qui doit être maintenue en espace libre. Donc là, on a vraiment une prise en compte du patrimoine qui est existant et on fixe des prescriptions qui sont assez dures et assez contraignantes. Donc après, là, ça c'est du coup annexé au règlement, c'est la partie graphique du règlement. Et donc là, pour être un petit peu plus précis, on a les différentes typologies des éléments qui sont protégés. Donc là, en éléments paysagers, on a les arbres. Et donc du coup, il y a les secteurs jardins existants également. Et donc là, on a des planches pour chaque quartier. Et donc du coup, qui précisent tout le patrimoine paysager qui est protégé. Mais là, on a, en plus du patrimoine paysager sur cette planche-là, on a également... ce qu'on va voir un petit peu plus tard, le patrimoine urbain et architectural qui est protégé. Donc du coup, des édifices particuliers qui sont notés avec des petits pictogrammes et qui sont reprécisés ensuite, et les séquences urbaines qu'on va aborder juste après.
Donc voilà. Donc du coup, derrière, on va plus aborder la partie typologie du patrimoine bâti qui est protégé. Donc là, c'est classé en deux parties. Il y a les édifices singuliers et les séquences urbaines. Moi, je vais traiter les édifices singuliers. Donc, il y en a environ 250 qui ont été recensés sur la commune. Donc, il y a des prescriptions générales qui sont fixées pour l'ensemble des catégories de ces édifices. Et ensuite, ces édifices, ils sont divisés en 6 catégories. Donc, l'architecture rurale, les maisons de maîtres, l'architecture et maisons de faubourg, l'architecture du XXe siècle, les équipements édifices religieux et les édifices particuliers. Donc, il y a les prescriptions générales qui portent, du coup, chacune sur la réhabilitation, les modifications des volumes, les façades et les surélévations. Et après, on a des protections qui sont plus fines. Donc là, au sein des édifices singuliers, on a deux niveaux de protection. Le niveau A, donc là, qui dit une protection forte du patrimoine, et donc là, qui est appelé patrimoine blésois. Donc là, pour donner un exemple d'interdiction ou un petit peu de contrainte qui peut exister sur cette protection, je vous ai mis quelques passages du coup du PLU. Toute modification peut être interdite si elle porte trop atteinte à la composition générale. Les surélévations sont interdites. Les éléments bâtis soumis à protection ne devront connaître aucune démolition. Donc là, on est vraiment sur des contraintes qui sont claires. Ensuite, on a un deuxième niveau de protection là qui est plus souple et qui concerne le plus petit patrimoine. Donc là, les modifications peuvent être beaucoup plus importantes. La démolition est possible sur certains bâtis, sous certaines conditions. Après, ça précise également, en exemple, là, les bâtiments annexes vont être fortement repris. Donc fortement repris, on ne sait pas, c'est pas quantifié. Les surélévations et extensions sont admises à condition qu'elles ne dénaturent pas trop le bâtiment d'origine. Là, c'est les mots exacts. Hein. Donc, du coup, c'est pas trop, c'est assez vague, on n'a pas de précision là-dessus. Donc là, c'est. Mais là, c'est ce qui est noté noir sur blanc. Hein. J'ai pas modifié. Donc voilà, pas trop.
C'est un peu vague. Donc du coup, dans le règlement, ça prend cette forme-là. Donc on a en fait à chaque fois une fiche avec le numéro qui est précisé pour chaque bâtiment, le type de construction, la localisation précise du bâtiment, une photo pour avoir un visuel. Et ensuite, à l'intérieur, je reprécise qu'on avait déjà des prescriptions qui étaient valables pour l'ensemble des édifices. À l'intérieur de ces prescriptions, on a des motifs de l'intérêt de la protection de cet édifice et encore d'autres prescriptions particulières qui s'appliquent. Donc là, par exemple, sur l'ancien corps de ferme qui se situe au 32 rue Léon Fournier, on précise architecture vernaculaire très intéressante, Et on reprécise derrière, le bâtiment principal est clôture à conserver et protéger. Donc à chaque fois, on a un détail qui vient compléter les prescriptions générales.
On peut faire mieux, on fait mieux ou pas ?
Non, on attend.
Donc du coup, là, je vous ai remis un petit peu un visuel qui correspondait du coup au... Là, la partie concernée, on vous a mis un extrait de carte, du coup, du règlement, encore une fois. Et donc là, qui précise un peu tous les éléments. Donc là, c'est ces édifices-là, qui sont à chaque fois dotés avec leur numéro, et qui sont là, pour une fois, intégrés à l'intérieur d'une séquence urbaine, mais qui ne sont pas obligatoirement intégrés à l'intérieur d'une séquence urbaine.
Donc voilà.
Enfin, en ce qui concerne les séquences urbaines, donc ils en ont recensé environ 60. Il y a deux types de séquences. La première, c'est ce qui recense les ensembles urbains remarquables pouvant inclure les édifices eux-mêmes remarquables d'un point de vue historique ou culturel. Et les secondes, c'est des ensembles urbains qui forment un espace public de qualité. Les éléments qui composent ces séquences ne sont pas remarquables en eux-mêmes, mais c'est leur répartition qui constitue l'ambiance de la ville et leur intérêt culturel et historique. Donc on peut voir que comme les édifices singuliers, ils sont recensés en fiches, avec pareil leur numéro pour les repérer sur le graphique, le type de construction, la localisation, une photo pour illustrer, le motif de l'intérêt de cette séquence et les prescriptions qui sont spécifiques à cette séquence.
Donc du coup, en conclusion, on peut dire que le PLU de Blois protège en grande partie son patrimoine. Néanmoins, pour nous, il reste encore certaines zones d'ombre, c'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas réussi encore à réunir les informations par rapport au classement des typologies qu'on a vues, comment ont été sélectionnés ces monuments, selon quels critères. Et donc, on va essayer d'éclaircir ça durant les entretiens qu'on va mener. Et puis aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un PLU qui a très peu été modifié ces derniers temps. La dernière révision date de 2013. Donc, dans l'optique, évidemment, de construction d'un PLUI qui est en cours avec la ville de Blois. Et donc, on peut s'interroger sur la manière dont sera pris le patrimoine, dont sera pris en compte le patrimoine dans ce PLU. Voilà. Merci de votre attention.
Merci à vous pour cette première présentation. Alors, garder le temps, ça veut dire m'appliquer à moi-même le fait de parler peu. Mais bon, je rappelle que l'idée de ce programme de recherche, parce que tous les acteurs présents ne sont pas présents à chaque comité technique, donc il y a à chaque fois des nouveaux venus, c'est voilà, de faire une espèce de portrait robot de ce que peut être le PLU patrimonial, avec ses faiblesses et ses avantages éventuels. Donc, bien sûr, l'idée, c'est aussi de collectionner un certain nombre d'exemples à travers le territoire, bien sûr régional, mais aussi à travers le territoire français. Voilà, donc nous mutualisons l'ensemble de ces présentations. On est aussi preneurs de documents qui peuvent être édités ailleurs. Voilà. Donc pour chaque présentation, on propose 5 minutes d'échange. Si vous avez des questions à poser aux étudiants, bien sûr, alors dans la limite, bien sûr, de leur recherche. Et puis vous parlez bien dans le micro à chaque fois pour qu'on puisse enregistrer les débats.
Merci. Deux choses, deux observations. La seconde, c'est la formulation finale que je partage complètement. On ne sent pas bien la justification des protections. Hein, donc, le niveau explicatif dans leur présentation n'apparaît pas. Alors, vous dites qu'il est, vous ne l'avez pas trouvé, donc ça semble être un manque. La seconde observation, si on peut revenir sur la diapo de quand j'ai voulu intervenir, là, je vous interrompre méchamment. Celle sur ce que vous appelez les prescriptions sur les bâtiments, les deux catégories de bâtiments. Voilà, là. Moi, je ne vois pas de prescription, là. Je veux dire que j'ai le sentiment qu'on... Enfin, les trois exemples qu'il y a, hein, donc forcément, mon propos est limité à ça. Hein, c'est que j'ai le sentiment qu'on a affaire à des bâtiments idéaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de truc qui déconne. Hein, quoi, hein. Et donc, il n'y a pas de prescription en tant que telle. Je veux dire que les éléments de prescription, des éléments qui ont été dénaturés, de restitution, la clôture qui a été cassée à un endroit, etc., que sais-je, quoi. Je veux dire que je ne sens, et c'est, à mon sens, c'est l'enjeu du PLU hein, patrimonial, hein. Je ne sens pas l'aspect prescriptif de la protection. Je sens bien l'aspect « je préserve » avec une justification qui me semble à nouveau légère, mais vous l'avez évoqué. Par contre, la dimension prescriptive ne m'apparaît pas.
Vous avez peut-être des choses à répondre, hein, c'est pas... vous qui avez analysé l'ensemble du PLU, regardé l'ensemble des documents, nous, comme Jackie l'a dit, on voit qu'un petit morceau, c'est normal. Hein. Voilà, c'est pas...
Du coup, là, ça, c'est un extrait. On ne vous a pas mis, mais au départ, il y a des prescriptions générales qui, là, viennent fixer, en fait, en fonction de la volumétrie. Et en fait, on n'a pas ressorti tout le document. C'est vrai que là, on est plus parti sur la fiche, où là, c'est plus... C'est pour avoir l'exemple concret, mais en fait, il y a des prescriptions générales qui s'appliquent à chaque édifice. Donc du coup, je reviens juste sur ma diapo précédente. Sur l'architecture rurale, par exemple, on a l'architecture rurale, des prescriptions générales sur l'ensemble qui précisent du coup ce qui est réalisable ou pas. Mais après, c'est des prescriptions qui sont...
Non, mais je comprends très bien, pardon. Hein. Je comprends très bien la notion de prescription. Me semble-t-il, la difficulté que l'on a de faire passer... Oui. Hein, c'est ça, c'est de passer du général au particulier. Quoi, hein. Donc effectivement, on est tous en vouloir dire il faut que ce soit bien, il ne faut pas que ça soit surélevé, il faut que ceci, il faut que cela. Mais par contre, lorsqu'on est sur une parcelle donnée, sur un édifice donné, comment on traduit ça?
C'est vrai que c'est
assez... Et je dis d'autant plus facilement ça, que quand on fait des consultations d'avocats sur les prescriptions du PLU qu'on veut protéger, on a des arrêts buffets très fréquents parce que soit on n'a pas la motivation suffisante, ça on sait la faire, et par ailleurs, c'est l'autre débat, c'est qu'on n'a pas le droit. Mais c'est un deuxième sujet. Mais la grosse difficulté, c'est effectivement d'identifier sur chaque immeuble, bâti ou non bâti, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que qu'est-ce qui va, ce n'est pas compliqué. Conserver, ça peut s'admettre. Et encore que, si je veux transformer, on verra. Mais en tout cas, c'est quand ça ne va pas, c'est passer du général au particulier. Hein.
C'est
souvent une difficulté que l'on a. Quoi. Donc,
là, pour le cas, ce n'est pas précisé qu'est-ce qui ne va pas dans le bâtiment. On est vraiment sur ce qui est déjà existant. On reste sur de la protection plus que sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou qu'est-ce qui a pu être endommagé qu'on n'a pas pris en compte là-dessus. C'est vrai que, bah, du coup... Du coup, voilà.
Parce que là, en l'occurrence, c'est le bâtiment principal et clôture à conserver et protéger. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, quoi, hein? Muret séparatif qualitatif en pierre à réhabiliter, là on comprend qu'il serait à réhabiliter. Et le reste?
Ça reste assez vague.
Oui, alors est-ce qu'il faut qu'il soit vague pour que vous puissiez être admis par vos élus?
Aussi.
C'est aussi ça. Donc je pense que vous y allez par étapes, quoi. Ok, c'est une première étape.
Oui, je vous remercie. Alors j'aurai très rapidement une petite remarque et une mise en perspective. La petite remarque, c'est vous avez dit que le PLU englobait les différents dispositifs liés à la protection du patrimoine. Faites attention, ce n'est pas tout à fait exact, puisque le PLU s'arrête là où le secteur sauvegardé commence, d'une part. Deuxièmement, le PLU ne gère pas l'instruction sur les monuments historiques, qu'ils soient inscrits ou classés, puisque c'est la compétence du préfet de région. Et puis, les PLU ne gèrent pas non plus, évidemment, l'avis de l'architecte des bâtiments de France en espace protégé. Ça veut dire que l'ABF peut tout à fait considérer qu'un bâtiment non repéré comme élément patrimonial dans un PLU, en fait, en est un. Hein. Et même inversement, d'ailleurs. On peut considérer qu'un bâtiment repéré comme une valeur patrimoniale, finalement, on n'a pas tant que ça. Donc là, l'architecte des bâtiments de France est libre et autonome dans sa décision par rapport aux règles du plan local d'urbanisme. Donc le PLU ne peut pas, de fait, intégrer les dispositions réglementaires patrimoniales. Maintenant, ça c'était pour une petite mise au point. Hein. Sur la mise en perspective, il est intéressant pour vous de rechercher dans votre critique et dans votre recherche sur les plans locaux d'urbanisme d'où vient la notion de patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend peu. Il faut remonter à la Constituante. On est juste après la Révolution française. Et là, on a une vision de la protection du patrimoine qui est un objet patrimonial d'objet. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'évolution des cultures, on arrive à des visions patrimoniales d'espace, voire à des visions patrimoniales, comme le décrit l'UNESCO, de comportement humain. Donc on se rend compte, avec le patrimoine immatériel, par exemple. Et de plus en plus, on arrive à, aujourd'hui, je trouve, à une sorte de contradiction entre cette volonté d'avoir, comme vous le dites justement, qui sont repérées dans le plan, des ambiances urbaines, et finalement on se retrouve avec des fiches où on précise deux ou trois objets architecturaux comme étant des caractéristiques uniques. Il y a des plans locaux d'urbanisme ou des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, justement, qui font des fiches par rue et par ambiance urbaine. Et ça, on le voit jamais dans les PLU, et c'est assez dommage, parce que on sent bien que finalement, ce qui nous intéresse du point de vue du patrimoine, c'est pas tant, comme on a vu ce matin d'ailleurs, l'objet architectural, mais plutôt ce qu'il crée comme qualité de cadre de vie. Hein, c'est ce que précise la grande idée de la loi LCAP. La loi LCAP du 8 juillet 2016 dit que l'objectif que l'on a tous, c'est d'améliorer le cadre de vie, y compris dans les déplacements, le comportement, la vie quotidienne. Ça va au-delà, finalement, de ce que l'on perçoit, mais ça réfléchit plutôt autour de ce que l'on vit. Et voilà. Donc, pour moi, ces fiches-là à l'immeuble, du point de vue du patrimoine, ont très peu d'intérêt, surtout dans un PLU qui couvre l'ensemble de la commune, sauf comme un élément uniquement de recherche pour avoir une typologie, mais ce n'est pas un outil d'aide à la décision. Hein, ce n'est pas un outil réglementaire d'aide à la décision. En revanche, l'aide à la décision, elle peut se traduire réglementairement, je pense, d'une manière plus évidente et plus compréhensible sur des ambiances urbaines et sur des quartiers, en fait, ou des rues. Voilà, c'était mon point de vue. Je vous remercie.
Quelque chose dit de façon peut-être un petit peu moins abstraite que ce que vient de dire mon collègue qui... Non, qui est très juste, mais je pense que pour y répondre, vous pouvez peut-être vous poser. Vous avez commencé par dire dans votre analyse que ont été prises en compte les sites inscrits, le patrimoine mondial. Peut-être que vous pouvez voir comment le PLU a pris en compte spécifiquement ces protections-là. En gros, est-ce qu'on a les mêmes repérages qui sont traduits de la même façon dans un territoire sans protection particulière? Est-ce que ces protections ont été vues différemment quand il existe déjà une protection, site inscrit, site classé, patrimoine mondial? En gros, qu'ont apporté cette reconnaissance, soit paysagère, soit de patrimoine mondial, et comment ça a été traduit dans le PLU? Est-ce qu'on est toujours dans cette notion d'objet, les uns à côté des autres, ou est-ce qu'on a pu dépasser cette notion d'objet, enfin de patrimoine-objet? Ça vous aidera à répondre à la remarque de mon collègue.
Bon, Julie.
Juste voilà. Rapidement, ouais, c'est juste pour rebondir sur le programme, par rapport à, parce que je voudrais vous remercier d'abord pour votre travail, et ensuite parce que j'ai visualisé aussi vos soutenances. Donc du coup, je voulais vous dire qu'il y a une dimension qui n'a pas été dite, mais effectivement, les prescriptions générales, vous avez expliqué dans votre soutenance que c'était lié à l'identité de la construction. Et je pense que ça répond aussi un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre grille d'analyse qui induit cette lecture-là, d'avoir mis les patrimoines recensés autrement, et notamment par l'État, en vis-à-vis d'un patrimoine plutôt recensé par la commune, de dire que la commune finalement prend en compte ou non, et quelle dimension et quelle échelle. Et de fait, apparemment, à Blois, ce serait plutôt une dimension de petit patrimoine, ça répond à un des axes de notre programme qui est de comparer les différentes protections, et dire qu'il y a une certaine hiérarchie qui s'impose de fait. Et deuxième point, moi, c'est les vocables de la légende graphique qui sont intéressants aussi, parce qu'on a encore un nouvel élément paysager. Je crois que c'est d'intérêt paysager, cette fois-ci, en regard des EBC. Donc, on va avoir une liste à la fin du programme qui va être assez intéressante à regarder. Dernier point, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment la règle est appliquée à Blois. Et je me demande jusqu'à quel point, je ne sais pas si ça peut être examiné par les étudiants, mais peut-être qu'une dimension plus applicative de la règle, c'est-à-dire comment dans les projets on prend en compte cette règle-là, et voir justement, peut-être à travers quelques permis de construire ou de cas un peu, d'études de cas, on peut peut-être faire ressortir des choses intéressantes de ça aussi.
Merci Julie. Je doute qu'ils aient le temps de faire cette analyse-là, malheureusement, sauf si vous en avez envie. En tout cas, je vous remercie. On va passer au deuxième cas, qui est donc le cas langésien. Donc, ce qui nous a intéressé sur Langeais, mais ils le diront mieux que moi, c'est qu'on était parti sur l'idée, peut-être, que Langeais n'avait pas de PLU patrimonial tel qu'on l'entend. Donc, c'est un peu l'idée qu'on leur a demandé de creuser.
Donc, nous allons présenter notre étude sur la commune de Langeais. Donc, notre territoire d'étude, c'est donc Langer, un territoire de 4000 habitants environ. Un Saint-Scott signé en 2009, un PLU approuvé en 2013, et une révision prévue suite à la fusion avec la commune des Essarts. Ça restera limité compte tenu du nombre restreint d'habitants.
Donc, quels outils sont présents finalement sur le territoire de Langer? Donc, on est une des communes qui est concernée par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et donc sa charte. On est dans le réseau Natura 2000. On fait partie, comme quatre autres communes, du périmètre UNESCO, donc du Val-de-Loire. Et enfin, on est concerné par un nombre assez conséquent de monuments historiques, donc trois classés, un qui est en cours de classement. Donc il s'agit du pont de Langer et 18 inscrits. Pour ce faire, on a souhaité rencontrer l'ATU, donc Monsieur Thierry Lasserre, le PNR Loire-Anjou-Touraine et la mission Val-de-Loire, et on projette de rencontrer la mairie de Langer. Ce qu'on a déjà pu voir en rencontrant le PNR Loire-Anjou-Touraine, c'est que le travail finalement de cet acteur se faisait en amont. Donc, comme il dit, c'était une personne publique associée. Il a également fait un travail de... Enfin, il était présent à certaines des réunions, élaboré un travail de... Enfin, donc, il était présent à des commissions de travail. Donc, voilà, un travail en amont, un travail d'accompagnement.
Donc, du coup, il y a... La ville de Langer a travaillé avec l'ATU, qui a repris... l'évolution des documents d'urbanisme en partant du POS et jusqu'au PLU de 2012. Ce qui permet de prendre en considération une évolution des mentalités dans la perception déjà de l'espace et dans la protection que ce rapport peut apporter, notamment dans la protection du patrimoine paysager. Il y a des OAP qui couvre le territoire de Langer, qui va essayer de rationaliser l'étalement de la ville et la ville à prolonger, qui a été décidée sur le plateau.
Ce qu'il faut insister, c'est que dans le cas de Langer, on a trois OAP, dont une qui est entre guillemets patrimoniale, dans le sens où elle se focalise sur un secteur géographique déterminé, donc la façade du Val-de-Loire. Une OAP qui pourrait être améliorée selon on a discuté hier avec la mission Val-de-Loire, mais qui enclenche déjà dans sa démarche une démarche patrimoniale, puisqu'il y a certaines choses qui sont dites. Alors effectivement, ça n'a pas réellement d'effet, mais dans des notions de... ça prend sens dans des notions de projet d'aménagement, etc. Par exemple, concernant les constructions, le fait de respecter l'intégrité et la qualité du patrimoine architectural ligérien, donc c'est des choses qui sont assez basiques, mais on voit qu'il y a déjà dans la démarche d'élaboration du PLU une conscience patrimoniale. De même que dans le
règlement. Le règlement qui ne prend pas en compte le patrimoine bâti réellement, malgré un état des lieux important dans le rapport de présentation. Ainsi, il se base sur l'ancien article L123-1-5, 7e mois du Code de l'urbanisme, et qui va protéger dans son article 2. Notamment la covisibilité, en essayant de limiter les impacts visuels de plateau à plateau, de vallée à plateau. Au niveau de son article 11, c'était un ancien ABF qui était en charge et qui donc a fait en sorte que toutes les protections soient mises en termes de protection des périmètres classés. Et donc l'aspect, l'article 11 est bien fourni.
En ce sens, la première hypothèse qu'on s'était faite, c'était que finalement, Est-ce que les abords permettaient de protéger d'une certaine manière l'ensemble du centre-bourg de la commune de Langeais et puis noter également que trois quarts quasiment du territoire de la commune était concerné, enfin, soit dans le zonage en zone A, soit en zone N, et par les EBC. En conclusion, en fait, on n'est pas du tout dans le même cas que Blois, par exemple. On n'a pas un PLU qui va aussi loin, mais on a une démarche patrimoniale qui se en toile de fond. Donc, on le voit avec l'élaboration du PLU par l'ATU. On a un document qui est essentiellement, donc en fait, une conception de document cadre, en son sens, mais qui prend quand même des enjeux patrimoniaux dans le sens où, que ce soit dans le rapport de présentation ou dans le PADD, il y a une référence, forcément respecter l'identité Val de Loire, etc., etc. Et que finalement, dans sa conception, c'est plutôt dans une approche systémique, le PLU vient là à son échelle, mais qu'il y a d'autres documents qui permettent déjà une protection. Merci.
Il se dit à Langeais, lapsus. Il se dit à Langeais que finalement la présence d'un certain nombre de monuments historiques et de leur périmètre permet de gérer le patrimoine sans qu'on ait besoin de le mettre dans le PLU. J'aimerais bien avoir votre avis, Monsieur Charnassé.
C'est une bonne question. Alors non seulement les périmètres de 500 mètres ne permettent pas de gérer en bonne intelligence l'évolution d'une commune. Même lorsque le service urbanisme est dirigé par un ancien architecte des bâtiments de France, figurez-vous. Donc, Langeais, et vous l'avez très bien exprimé d'ailleurs, et je vous en remercie, toute l'ambiguïté de votre présentation rend compte de la réalité du terrain. C'est-à-dire que vous dites très justement qu'il y a en fond une certaine prise de conscience, mais que dans les faits, dans la réalité réglementaire actuelle et à venir de Langeais, il n'en est rien ou presque rien. Je vous invite à regarder ce qui a été fait, je dirais juste un petit mot là-dessus, sur la commune de Rochecorbon, concernant un outil qui est assez intéressant, qu'on appelle les ZAP. Alors on n'est pas dans le code de l'urbanisme, hein, mais les zones agricoles protégées, que Langeais aurait tout à fait intérêt à mettre en place, en particulier sur les plateaux, là où il souhaite faire une extension d'urbanisation qui, pour nous paraît absolument désastreuse. Vous pouvez regarder également ce qui est intéressant sur Langeais, ce qu'a réalisé l'agence Urban ISM dans la VAP d'Amboise, où la VAP d'Amboise rencontre des critères qui caractérisent la valeur universelle actionnelle du bien UNESCO et qui le traduit. C'est-à-dire que les critères de la VUE sont traduits dans le règlement de la VAP. Et c'est exactement ce qu'il conviendrait de faire à Langeais. C'est-à-dire que le PLU puisse caractériser de manière objective les critères qui fondent la VUE, et c'est ce qu'on cherche à faire avec la mission Val-de-Loire, pour que enfin ça devienne un document réglementaire, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la loi LCAP de juillet 2016, hein, où elle rend obligatoire la prise en compte... Si, elle rend obligatoire la prise en compte des critères qui fondent la VUE dans les documents d'urbanisme. C'est comme ça qu'on l'interprète, mais on aime bien l'interpréter comme ça, c'est bien. Pour nous, ici, dans le département, c'est comme ça, et ce ne sera pas autrement. Voilà. C'est obligatoire. Non, mais c'est intéressant parce que le patrimoine, on s'en occupe ou on ne s'en occupe pas. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et quand on parle de patrimoine, nous, on l'a toujours dans l'esprit, et je terminerai là-dessus, avec ce qu'avait imaginé Malraux dans sa loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés, où le patrimoine, c'est à la fois... la protection du patrimoine, bien entendu, mais également sa mise en valeur. Et pour nous, la mise en valeur, c'est tous les paramètres qui permettent d'accompagner une architecture contemporaine et contextuelle. Donc, on joue toujours sur les deux tableaux.
Juste sur la loi CAP, hein, on aurait bien voulu qu'il y ait une prise en compte du plan de gestion dans le document d'urbanisme. Non, pas du tout. Non, c'est porté à connaissance. Ah, il y a eu un amendement qu'on a fait voter, nous, association, pour dire prise en compte, qui a été ensuite modifié par l'Assemblée nationale. Donc, curieuse, enfin, le texte dit élaboration conjointe, j'ai bien conjointe du plan de gestion, alors qu'on avait demandé que ce soit association avec, en association avec les collectivités. Là, c'est l'élaboration conjointe, donc c'est un cran au-dessus. Par contre, on voulait que le plan de gestion soit pris en compte dans les documents d'urbanisme, et en fait, le texte définitif, final, c'est porté à connaissance. La portée juridique n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que si je ne veux pas, je ne fais pas. Non, non, mais très clairement, si je ne veux pas, je ne fais pas. Portée à connaissance, c'est aussi mis dans l'enquête publique, point, quoi. Donc la portée juridique, mais c'est souhaitable que ce soit pris en compte, on est d'accord. Hein. Mais le texte n'a pas voulu, l'Assemblée nationale, le Sénat était d'accord, l'Assemblée nationale n'a pas voulu le faire.
Hein. Juste, vous n'avez pas du tout parlé du contexte dans lequel le PLU que vous avez analysé a été réalisé. Or, justement, il a bien un lien avec ce dont nous venons de parler, puisqu'en l'occurrence, il a été réétudié, hein, réarrêté, suite à un avis défavorable de l'État, notamment pour la non-prise en compte du patrimoine mondial, puisqu'il portait fortement atteinte au site et au paysage très caractéristiques de ce site. Donc, comme quoi, on arrive quand même, même quand, à l'époque, il n'y avait encore rien dans la loi, on a réussi à porter ce langage-là pour un PLU. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce PLU n'est, à mon avis, à mon sens, pas un PLU patrimonial, même si on a fait un grand pas par rapport au PLU précédent qui a été refusé par l'État. À mon avis, à mon sens, effectivement, on est très très loin de ce qu'on pourrait tenter d'appeler un PLU patrimonial, objet encore non identifié.
Merci. Donc on parle beaucoup de patrimoine mondial en ce moment, donc ça tombe bien, Myriam arrive au bon moment. Voilà, Myriam Ledet, Mission Val-de-Loire, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Peut-être juste une question sur l'influence, puisque ce matin, par contre, on a parlé de l'influence du plan de prévention du risque inondation. Je crois que c'était mentionné aussi. Non, je ne sais plus. Du coup, vous n'aviez pas de PPR sur...
Oui. Si, mais ça qu'on n'a pas... Enfin, moi, j'en ai pas entendu.
D'accord. Non, c'était savoir si vous aviez vu à un moment une articulation qui se faisait, comme on l'a abordé ce matin, entre l'impact, bien sûr, du PPR, de la Loire et...
Ouais.
Ce n'est pas le même PPR que celui que l'on a vu ce matin. Je ne connais pas son état d'avancement, mais pour moi, il n'est pas encore approuvé. Il doit être en cours de révision. Mais ceci étant, il y a des règles qui peuvent s'avérer également contraignantes sur la construction.
Je vous remercie. Moi, je vous invite à aller vous promener à Langeais, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, même si le PLU n'est pas très patrimonial, quand on se promène dans le centre-bourg, il est plutôt bien traité, à mon sens. Voilà. Et parce que, justement, il y a une forme d'urbanisme négocié entre la ville, les services de l'État. Donc, c'est assez intéressant à voir, mais... Et en fait, ça pose la question de lui, enfin, je vais pas dire de l'utilité, mais de l'efficience de la règle. Finalement, s'il y a moins de règles, est-ce que pour autant on n'arrive pas à faire des belles choses?
Par exemple, pour à nouveau préciser ce qu'a pu dire mon collègue tout à l'heure sur le fait qu'un architecte des bâtiments de France ne peut pas tout. Si une parcelle est classée comme constructible dans un PLU, alors même que le paysage impliquerait qu'elle soit non constructible. Un ABF, aussi puissant qu'il soit, ne peut pas remettre en cause la constructibilité d'un terrain. Il va pouvoir fixer des règles qui peut-être rendront inconstructible le terrain d'une certaine manière. Mais voilà, il y a quand même des limites. Effectivement, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut pas tout. Il y a des erreurs fondamentales faites dans les PLU qui resteront des erreurs fondamentales sur le territoire. Parfois, gérer le comment ne suffit pas.
Et puis rassurez-vous, à Langeais, toute la réussite que vous avez pu observer ne sont que l'aboutissement d'un conflit.
Hein ? Il faudra qu'on en reparle. Donc on a besoin de règles, donc tout va bien.
Et ça risque de ne pas être fini parce que il y a une proposition de loi qui a été déposée au Sénat en décembre qui vise à dire, alors que le Sénat s'est beaucoup battu pour la loi CAP à en faire quelque chose de correct, qui vise à dire l'ABF sera consulté pour l'élaboration du PLU. À partir du moment où il aura donné son avis, on n'a plus besoin de son avis après. Hein. la proposition de loi portée par des sénateurs sera-t-elle examinée? J'en sais rien, mais qui dit l'ABF est consulté pour l'élaboration du PLU. Une fois qu'il a donné son avis au niveau du document, il n'a pas à être consulté ensuite sur les autorisations de travaux. Oui.
Je vous propose de passer à Montlouis-sur-Loire. Ah, pendant que les étudiants s'installent, je laisse la parole à Paris-Marie.
Juste une petite remarque justement sur la question de l'ABF ou du PLU. Je pense qu'une échelle à laquelle il faut réfléchir, c'est celle des franges, des marges, et ce qui n'est pas justement sous l'emprise d'un rayon et qui est tout le contexte patrimonial d'un espace. Et donc c'est la raison pour laquelle il semble fondamental d'avoir vraiment une vision global du territoire et pas simplement sur les petits morceaux qui sont pris en compte. Et en effet, on connaît des paquets de centres urbains qui fonctionnent finalement de manière satisfaisante malgré l'absence d'outils patrimoniaux dédiés grâce au travail des ABF, grâce aux travaux aussi des techniciens, etc. Mais malheureusement, dès qu'on s'écarte un petit peu de ces franges et qui sont les éléments qui vont permettre de rentrer dans un contexte patrimonial, là, on se retrouve face à des situations absolument catastrophiques. Donc, ça implique vraiment, justement, ce regard général par un outil qui est fait pour ça.
Je vous laisse la parole pour nous présenter le PLU de Montlouis-sur-Loire.
Du coup, oui, donc on a étudié le PLU du coup, de la commune de Montlouis-sur-Loire. Donc rapidement, Montlouis, donc c'est une commune périurbaine qui est située à l'ouest de Tours, une commune du coup de moins de 11 000 habitants. Elle a un PLU qui a été mis en place depuis janvier 2012. Pour l'instant, il n'y a pas de révision prévue dans les années à venir. Et du coup, sur son territoire, donc il y a le périmètre UNESCO Val-de-Loire. Et suite du coup à l'entretien qu'on a eu du coup avec la directrice de l'urbanisme de la commune et l'adjoint à l'urbanisme, on a du coup mis en avant, en plus de l'étude des documents, le fait que la problématique de Montlouis, du moins pour les personnes de l'urbanisme, c'est vraiment de concilier en fait, de la préservation de l'identité de la commune, vu qu'elle est proche de Tours, et en même temps de pouvoir continuer à se développer dans les années à venir.
Alors, pour commencer, avant de parler du PLU en lui-même, on va parler un petit peu des servitudes qui sont présentes sur la commune. On a d'abord le PPRI donc, qui couvre tous les bords de Loire, donc notamment une grande partie du périmètre UNESCO sur la commune. On a également une ZAP qui couvre 10% du territoire, qui s'étend sur plus de 300 hectares, qui avait été créée en 2007 pour préserver le patrimoine viticole et encourager la venue de jeunes agriculteurs. On a également une AOC, donc créée en 1938. La commune est également concernée par le label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire. Et on a plusieurs sites touristiques présents dont on va parler ensuite.
Donc à Montlouis, on compte 4 monuments inscrits. Ils ont un statut juridique particulier destiné à les protéger et constituent une servitude de droit public, d'utilité publique, par le biais du périmètre des 500 mètres. Ils sont tous en zone naturelle dans le PLU. Alors on a noté par contre qu'ils n'étaient pas, donc ça c'est les 4 monuments inscrits, on a noté qu'ils n'étaient pas représentés dans les cartes du PLU. Les flèches qui sont en rouge et les cercles, c'est nous qui les avons rajoutées. Donc il n'y a pas de mise en valeur du patrimoine et il est difficilement identifiable dans le PLU. Les seules choses qui sont représentées, ce sont les EPC. Dans le PLU, dans le rapport de présentation, il y a une liste du petit patrimoine. Donc c'est un simple listing de monuments ou d'éléments qui ont un intérêt patrimonial et c'est une liste non exhaustive. Il ne bénéficie pas d'une protection particulière, mais la commune montre qu'elle a conscience du potentiel patrimonial de ses constructions. C'est un simple tableau, il n'y a pas de critères particuliers. Et en fait, c'est un tableau qui a été réalisé par M. Thierry Lasserre de l'ATU et qui a fait une liste comparable à l'Angers. Donc voilà, ça c'est le tableau qu'on trouve dans le rapport de présentation. Alors dans les OAP, on a 3 secteurs qui sont concernés par le patrimoine. C'est un diagnostic du territoire et ensuite ils ont donné des orientations pour ces 3 zones qui présentent tout un intérêt particulier. L'objectif de ces OAP, c'est la préservation d'éléments patrimoniaux en lien avec la qualité environnementale et elle doit s'accorder avec le respect du déjà là. Ce ne sont pas des OAP patrimoniales à proprement parler, comme ça a été réalisé à Angers, par exemple.
Alors, pour parler ensuite du règlement, donc trois zones dans le PLU sont concernées par du patrimoine. Donc, on a tout d'abord une zone AP qui correspond en fait à la zone agricole protégée. Et pour ce qui concerne le patrimoine bâti et paysager, on a une zone UA et une zone UP qui ont le même règlement, qui correspondent au cœur d'îlots, enfin au cœur urbain. Principalement, elles sont régies par l'article R111-21 et avec quelques précisions supplémentaires dans le cas des toitures. Donc on voit avec une précision au niveau des matériaux à utiliser. Alors, ce qui nous a été dit lors de l'entretien en fait que nous avons eu à la commune, c'est que ce règlement est volontairement souple parce que, en fait, selon... c'est une volonté justement pour ne pas refuser trop de projets, parce que comme nous le disions en introduction, l'objectif de la commune est aussi de pouvoir se développer, de ne pas refuser trop de projets de construction. L'idée étant de négocier avec les porteurs de projets afin que les constructions nouvelles respectent le bâti déjà existant. Évidemment, ça pose quelques problèmes puisque la municipalité en est consciente, c'est que ça rend les décisions de refus, par exemple, de permis de construire attaquables, puisqu'on voit que le règlement est assez souple.
Du coup, ils nous ont bien fait comprendre qu'ils avaient conscience en fait d'avoir un intérêt patrimonial sur leur commune. Donc, du coup, pendant l'entretien, ils ont mis en avant en fait la volonté de préserver certains espaces de la commune de Montlouis, notamment en fait la rue Madeleine-Vernet. C'est une rue où en fait il y a des grandes propriétés qui ont vue directe sur la Loire. Ils sont un peu en hauteur, donc ils ont vraiment envie de les préserver parce qu'en fait du coup avec la loi Allure et les phénomènes de Bimby, ils ont déjà eu plusieurs propositions en fait pour diviser les parcelles, pour pouvoir construire d'autres habitations. Et du coup, ils ont conscience que c'est un phénomène qui va continuer à augmenter. Du coup, ils aimeraient vraiment protéger ces propriétés-là, qui pour eux représentent toute une partie de la commune de Montlouis. Et ensuite, du coup, ils nous ont parlé en fait de la possibilité de...
Pour vous montrer où est là.
Oui, bah là, en fait, les communes, enfin les maisons, c'est toutes ces maisons-là où il y a... Là, il y a un terrain de tennis, les piscines, enfin les grandes propriétés. Et du coup, ensuite, ils nous ont parlé en fait de protéger un peu plus toutes les zones UP, donc les hameaux anciens de la commune. Donc, ils ont réfléchi à la possibilité, pourquoi pas, de mettre en place une AVAP, comme ça a pu être fait à Amboise. Mais du coup, avec le retour justement de la commune d'Amboise, ils pensent que ça va être trop restrictif pour eux. Ça va sûrement les empêcher de pouvoir continuer à se développer. Donc, du coup, ils ont réfléchi à une solution transitoire. Et du coup, comme on a pu en discuter du coup hier avec Madame Lédé de la Mission Val-de-Loire, en fait, de mettre en place, pourquoi pas, du coup, une OAP patrimoniale qui serait une solution transitoire entre une AVAP qui peut être trop contraignante et, pour l'instant, ce qu'il y a déjà sur la commune, c'est-à-dire pas forcément grand-chose. Voilà. Merci de votre attention.
À propos du dernier sujet que vous avez abordé sur l'urbanisation des crêtes du plateau, juste au-dessus du coteau, on est vraiment sur la limite. On est en plein dans le cœur du Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des grandes propriétés qui sont pour la plupart des propriétés de villégiature. Donc c'est des architectures très datées, 1890, 1920, des belles maisons avec des oriels, des beaux windows, de la brique. Enfin, c'est une architecture très caractéristique. La grande difficulté de Montlouis-sur-Loire, c'est son périmètre de protection de monuments historiques autour du presbytère, puisque le presbytère, comme vous l'avez montré sur une photographie, il est en fait enserré dans un tissu urbain, ce qui fait que le champ de visibilité du presbytère est très contradictoire. Il est d'une part très large, puisqu'il donne complètement sur le Val-de-Loire, donc à l'intérieur du Val, il est très étendu. En revanche, dès qu'on est sur le plateau dans le tissu urbain, il n'a plus de champ de visibilité, on est hors du champ de visibilité, et donc l'avis de l'architecte des bâtiments de France est systématiquement simple. Une toute petite aparté, sur l'image de gauche, c'est la maison de retraite que vous avez entourée et pas le château de la Bourdaisière.
Ah oui.
C'est pas grave. Et puis sachez que c'est tout le parc qui est protégé aussi. Ah oui, donc il faut prendre l'intégralité du parc qui est en zone N. Alors, la municipalité récemment, sur les hauts plateaux, a été sollicitée par plusieurs demandes de division parcellaire pour urbaniser les grandes propriétés du coteau de Loire. Puisque les terrains sont constructibles dans le document d'urbanisme. Il se trouve que l'OAP patrimonial, puisque c'était déjà, alors ça ne s'appelait pas patrimonial, c'était l'OAP ligérienne, mais la démarche était toujours la même. L'OAP ligérienne, qui a été rédigée à l'époque par Thierry Lasserre de l'Agence d'urbanisme, apportait quand même des gages pour refuser le projet de division parcellaire. Simplement, la collectivité a été confrontée à la limite de ce qu'on a, la limite entre la compatibilité et la conformité. Quand on a une orientation d'aménagement et de programmation, on doit être compatible, on ne doit pas être conforme. Et donc, c'est un argument juridique qui est un petit peu fragile d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle ils ont eu pour ambition d'aller plus loin et effectivement d'aller davantage protéger ces coteaux. Cela dit, à mon sens, mais là c'est moi qui parle, c'est plus la collectivité. Une politique ambitieuse en termes de patrimoine et d'urbanisme, elle doit être pensée à l'échelle de toute la commune, pas nécessairement sur une rue et quelques parcelles concernées par un projet qui, à un moment, a soulevé une sorte de problématique, c'est-à-dire on avait des grandes parcelles qui jusqu'à présent se tenaient parce que d'un point de vue foncier, les propriétés n'avaient pas besoin d'être vendues. Il y a un particulier qui à un moment se pose la question de savoir s'il ne peut pas lotir le fond de son jardin et tout bascule. Et à ce moment-là, on commence à regarder l'OAP, on commence à regarder le règlement et on commence à se mettre au pas de charge pour essayer de réinventer un petit peu la question du patrimoine. Peut-être d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle ils se positionnent sur une AVAP ou sur un projet d'AVAP à un moment. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la commune de Mont-Louis-sur-Loire, les thématiques de patrimoine ont été abordées dans le PLU. Malheureusement, face au projet, les réponses ne sont pas toujours réglementaires. Les principes sont tous là, puisque dans l'OAP, je vais rentrer dans le détail, comme ça vous allez très vite comprendre, dans l'OAP, il est question de respecter le rythme parcellaire des propriétés de villégiature des coteaux de Loire. C'est clair, on respecte le rythme parcellaire en lanière, c'est-à-dire des grandes parcelles. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dans un PLU dire qu'on ne pourra pas avoir une parcelle de moins de 3000 m². Ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps. Ce n'est pas exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc, il faut trouver d'autres leviers qui permettent de protéger ces grands parcs et les propriétés qui vont avec, ou éventuellement de proposer, par l'intermédiaire d'une OAP plus poussée, des possibilités de densification, parce que, en fait, c'est une question qu'on ne s'est pas posée à l'époque où l'OAP a été réalisée. On n'a pas posé la question de la densification sur ces coteaux. Mais en tout cas, cette démarche, elle doit s'inscrire de façon plus générale. Et je finirai sur ce point-là. La question du champ de visibilité du monument, elle dit tout, puisque en fait, l'ABF est là, à Mont-Louis. Mais il est là qu'à 50% du temps, enfin à 25% de l'avis, je vais dire. Et ça pose une vraie question, parce qu'il est en avis conforme sur une partie, il est spectateur sur une autre partie, et en même temps, la partie qui est sollicitée aujourd'hui, c'est celle dans laquelle l'ABF est spectateur. Vous voyez, ça ne fonctionne pas très bien. Donc ça pose la question du projet, des outils et de la volonté politique, à mon sens.
Oui. Je voulais élargir la thématique de la construction justement sur ces hauts coteaux. Et la question se pose également sur plusieurs communes de l'agglomération. Et la réponse réglementaire, elle n'est pas tout le temps simple. Elle se pose aussi à Saint-Cyr. Elle se pose à Joué-les-Tours. Et la réponse est compliquée. À Saint-Cyr, par exemple, ils pensaient à une zone UP inconstructible. Réglementairement, bon, parfois elles étaient classées en N ou ND au POS. Donc, en effet, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui, c'est une typologie particulière. Et là, sur Joué-les-Tours, on se pose exactement en ce moment la même question sur les coteaux de Joué-les-Tours, où il y a des zones qui sont en UC aujourd'hui, mais il y a encore, malgré déjà des lotissements qui sont venus un peu abîmer, on peut dire, voilà, grignoter cette ambiance végétale. Alors, reparti en N sur du classement UC. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une thématique qui va se poser. Et peut-être qu'après, l'approche en PLU va pouvoir finalement permettre de monter en puissance sur cette réflexion et sur des typologies qui sont spécifiques à l'agglomération tourangelle, mais pas que, les hauts de coteaux. Alors, voilà, quel processus sur les hauts de coteaux, quel outil, quels enjeux, en effet, parce qu'on voit qu'il y a la question qui se pose à Mont-Louis, la question se pose à Saint-Cyr, la question se pose à Tours, la question se pose à Joué-les-Tours. Et en plus, on a une difficulté réglementaire. Voilà.
Excusez-moi. Sur la difficulté réglementaire, je pense que quand on aura des nouveaux règlements, c'est-à-dire avec des objectifs à atteindre, on pourra sans doute beaucoup mieux répondre à la question. Si l'objectif, il est que les faîtages soient toujours en dessous de la ligne de crête, on pourra atteindre l'objectif. Donc on va être dans des écritures, logiquement, totalement différentes. On sera plus sur des questions d'emprise, de règles, hein, et on va peut-être pouvoir répondre à ces questions qu'on se pose et qu'aujourd'hui, enfin, auxquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse.
Je voulais intervenir sur deux choses. Le premier, c'est que il y a d'un côté l'OAP et d'un autre l'AVAP, et on ne peut pas faire une fausse AVAP ou une OAP déguisée en AVAP. Je pense que c'est deux choses différentes. Si je prends référence sur l'OAP existante, l'OAP patrimoine, pardon, existante sur le PLUI Angers Loire Métropole, eh bien, il est articulé avec une AVAP et un site classé. Bon. Donc, l'OAP est un outil qui sert à une mise en projet d'un territoire patrimonial une fois que celui-ci a été caractérisé. Mais cette mise en projet n'est pas une déclinaison de règles. C'est une mise en projet avec un plan guide, une articulation des éléments à prendre en compte dans le cadre des projets à venir d'habitat, d'équipement, de transport, etc. Voilà. Une AVAP, c'est autre chose. Ou le remplaçant, la SPR, ça serait autre chose. Là, on descend à l'échelle du règlement, à l'échelle de la parcelle. C'est pas la même chose. Il y en a une qui est plus avec des orientations, qui est plus pour réfléchir sur le devenir d'un espace à différentes échelles. Et puis après, il y a une déclinaison plus fine, qui n'est pas d'ailleurs que à l'échelle de la parcelle, qui peut être, on l'a vu dans la VAP d'Amboise, qui peut être à l'échelle d'une séquence paysagère. C'est un des grands éléments qui a pu être mis en place dans le cadre de la VAP UNESCO compatible d'Amboise. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de Mont-Louis. Il y a un périmètre qui n'est pas adapté, etc. OK. Il y a surtout un projet qui a été mis en place, qui est un projet viticole. Et ce projet viticole a énormément servi à la protection des coteaux, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et là, il y a donc une mobilisation de la profession qui, elle, s'est sentie menacée par l'expansion urbaine et a voulu récupérer le contrôle de son outil de production. Et après énormément de négociations, ça a duré plusieurs années, ils se sont entendus sur un périmètre dans lequel il est impossible de construire, sinon des bâtiments à usage agricole pour justement optimiser l'exploitation viticole. Mais il n'est pas, et l'autorisation n'est plus de l'ordre du maire, mais c'est une autorisation qui est accordée par le préfet en lien avec un comité technique dans lequel les viticulteurs interviennent. Voilà la ZAP Mont-Louis qui a été mise en place et qui est fondée sur un projet agro-urbain. Donc, on a là l'exemple d'une mobilisation autour d'un patrimoine qui n'est pas un patrimoine bâti, qui est un patrimoine viticole, qui est un élément aussi fondamental que patrimoine bâti pour le Val-de-Loire UNESCO. Et dans ce patrimoine viticole, eh bien, il y a eu une mobilisation parce qu'il y avait un projet des intérêts économiques derrière et la volonté de défendre un territoire. Et ce territoire, dans la définition du périmètre, c'est là où je voulais en venir surtout, dans la définition de ce périmètre, il y a une partie du territoire qui a gelé des vignes encore existantes en haut de coteaux, qui donne donc une ouverture sur la Loire, avec, grâce à des vignes en haut de coteaux. Bon, alors, ils ont pu sauver ce qu'ils ont... Enfin, c'est une négociation qui n'est pas toujours aboutie. Le périmètre, quelquefois... donne quelques marges de manœuvre un petit peu, enfin, sur lesquelles on peut s'interroger, mais globalement, on a là un compromis qui est fait à partir d'une volonté locale et d'une volonté économique autour d'une notion patrimoniale territoriale. Voilà.
Une petite remarque également sur Mont-Louis. Vous pouvez tout à fait, dans vos recherches et votre étude, dans le cadre de la volonté de sensibiliser au patrimoine, ça on avait un petit peu parlé, puis c'est mon petit côté provocant, vous pouvez évoquer le massacre absolu que constitue l'urbanisation de Mont-Louis. Hein. C'est un désastre. en termes de paysage, d'urbanisme et de développement. Alors, ce n'est pas un reproche que je fais. Et encore une fois, il faut mettre le développement urbain dans la perspective de l'époque à laquelle il a été conçu. On sait qu'aujourd'hui, on ne ferait plus des aménagements tels que cela. À l'époque, c'était une autre question. Donc, il y a un bourg ancien qui est très qualitatif, qui est très intéressant, et puis qui est envahi, on voit bien sur votre carte, de lotissements qui se composent au fur et à mesure des opportunités foncières, sans schéma directeur, sans plan d'urbanisme, sans volonté particulière, sans sensibilité patrimoniale. Voilà. Et bon, c'est pas une caractéristique de Mont-Louis, hein, rassurez-vous, c'est une caractéristique nationale dont je parle. Hein. On est dans ce que Bernard Kaleski appelait dans son livre Urbanisme et volupté, la France pavillonnaire enchaînée. C'est ça le contexte. Et dans cette France pavillonnaire enchaînée, moi j'ai quand même bon espoir que dans le cadre justement des PLU patrimoniaux, on puisse revenir en arrière. On puisse trouver des dispositifs pour boucher les dents creuses, créer de la densité, recréer de l'espace public qualitatif, recréer des alignements. Et donc on peut, je pense, dans un PLU patrimonial, chercher, par la densification nécessaire aujourd'hui pour limiter l'étalement urbain, travailler sur ces espaces urbains désarticulés, lâches, voilà, et consommateurs de terres naturelles. Mais vous pouvez, dans les études, et moi j'aime trouver intéressant qu'on puisse critiquer objectivement, sans que ce soit encore une fois ni un reproche auprès des urbanistes ou des élus ou même des architectes des bâtiments de France, mais faire un constat, et puis de ce constat, on retrouve des solutions en matière de projets urbains pour inverser la tendance. Voilà.
Une observation générale, je crois, aux trois présentations. Hein. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais vous avez tous à peu près le même vocabulaire, entre guillemets, qui parle de contraintes, qui parle de difficultés à concilier, patrimoine de développement. Donc ça, je ne sais pas si ça remonte de vos enseignants, j'imagine que oui. Je sais pas, mais c'est sûrement l'expression des élus, hein, de vous interviewer, quoi. Le patrimoine ne peut être en aucun cas un obstacle au futur, quoi. C'est bien au contraire un outil de développement fondamental, quoi. Et je crois qu'il faut changer aussi le regard par rapport à ça, hein, et le vocabulaire par rapport à ça. Ça me semble important. Il y a des servitudes, ça ne veut pas dire qu'il y a des contraintes. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et l'autre observation qui est plus technique, par rapport à l'Angers. L'Angers. vous avez représenté les MH, les périmètres MH, par des cercles. Alors, qui c'est qui les a représentés comme ça? Et ce sont les périmètres autour des MH qui sont représentés? Parce que normalement, c'est de tous les points du monument, donc c'est rarement un cercle, quoi. C'est même jamais un cercle, quoi. Non, mais c'est pas grave. Mais enfin, c'est ça, ben c'est l'atlas, c'est pas le document d'urbanisme, quoi. D'accord.
Merci. Ah, alors, rapidement, pour qu'on passe à la suite.
Dans les trois présentations, vous avez quand même à chaque fois analysé la prise en compte du patrimoine comme étant la prise en compte d'objets patrimoniaux. Jamais, mais c'est sans doute parce que les PLU n'en tiennent pas compte, jamais on a d'analyse sur le développement patrimonial ou l'analyse historique ou l'analyse patrimoniale du développement urbain de la commune. C'est-à-dire que ce qui manque souvent dans les PLU, c'est qu'en fait, on a une analyse uniquement sur l'avenir du développement, mais comme on ne sait pas d'où on vient, eh bien, c'est plus difficile de savoir où on va, comme toujours dans la vie. Donc, ce qui manque souvent, quand même, dans les PLU, dans les rapports de présentation, dans les diagnostics, c'est des études de cartes anciennes qui permettent de montrer comment s'est développée, comment s'est formée la ville. Et ce serait très utile pour comprendre l'avenir, parce qu'effectivement, normalement, le patrimoine devrait être la base sur laquelle on s'appuie, comme une fondation sur laquelle on s'appuie pour construire l'avenir. Et auquel cas, elle est effectivement plutôt une aide qu'une contrainte. Mais comme cet élément souvent n'est pas analysé, peut-être faut-il se poser la question des compétences d'ailleurs des personnes qui réalisent les PLU pour analyser cela, eh bien, on s'arrête à l'objet. Donc regardez dans les rapports de présentation sur s'il y a des analyses historiques sur les développements urbains et s'il y a des cartes historiques et leur analyse.
Merci. Alors, je ne sais pas, on va... Juste pour répondre très très rapidement, il y a quand même un biais méthodologique pour nos étudiants, c'est qu'ils ont travaillé à partir de notre grille d'analyse à nous. Qui effectivement peut-être prend pas assez cette dimension-là, qu'on le regarde peut-être pas assez dans les PLU, donc c'est intéressant, mais ça explique aussi pourquoi ils ont pu prendre ce biais d'analyse-là. Je propose à Stéphanie Boubli de s'installer, et le temps que vous vous installiez, éventuellement Julie, très rapidement.
C'est hyper rapide, Myriam, c'était aussi. Juste pour parler de la notion de PLUI dont on voulait aborder un petit peu dans le programme, et de dire que l'axe sur... les coteaux dont vous parliez tout à l'heure et le fait d'avoir un patrimoine en fait qui est mis en danger un peu de la même manière dans plusieurs communes, ça peut être une prise en compte du patrimoine dans un PLUI. Et du coup, comment un PLUI peut prendre en compte du patrimoine s'il est un peu traité pareil dans toutes les collectivités de la même agglomération? Ça peut être une prise en compte à l'échelle intercommunale, c'est tout.
Myriam, très rapidement.
En complément de l'intervention d'Adrienne, elle a parlé donc d'objets et rarement d'objectifs à atteindre. Et c'est vrai que maintenant, on retrouve dans la loi et peu à peu dans l'écriture simplifiée des futurs PLUI la demande d'écriture d'objectifs de qualité patrimoniaux et de qualité paysagère. Et on peut y rajouter patrimoniaux. Et donc ça, c'est vraiment une vraie révolution, mine de rien. Parce qu'effectivement, si on demande que les PADD se concluent notamment par la définition d'objectifs de qualité paysager et patrimoniaux, on peut espérer après avoir une déclinaison de la prise en compte de ces objectifs. Et là, on sort de l'objet pour passer au territoire. Voilà.
Merci. Donc merci encore à tous les étudiants pour leur travail qui, encore une fois, n'est pas terminé, donc qui reste en cours. Je pense que les remarques qui ont été formulées, n'hésitez pas à vous en servir, évidemment, pour avancer dans vos recherches.
Je suis ici, donc Julia Dufay, service de l'urbanisme de la ville de Luynes, à l'invitation de Mathieu Gigot, qui a assisté à la présentation que j'ai faite du PowerPoint que je vais vous diffuser aujourd'hui, le 23 novembre dernier, lors des 11e journées du Val-de-Loire, organisé par la mission Val-de-Loire. La commune de Luynes, aujourd'hui, comme le disait Madame Barthélémy, elle se positionne, elle s'interroge sur une manière effective de faire ressortir une identité singulière et particulière dans le paysage hier de l'agglomération, aujourd'hui de la communauté urbaine, demain de la métropole. Luynes, c'est une commune, pour ceux qui ne connaissent pas, de un peu plus de 5000 habitants, à 15 minutes de Tours, mais commune périurbaine qui est identifiée dans la trame verte et bleue comme le poumon vert de l'agglo, donc avec une identité verte très forte que le maire apprécie particulièrement, mais également des habitants qui sont extrêmement investis et en possession de leur territoire. On dit souvent que les Luinois sont les irréductibles Gaulois de l'agglo. Ils ont fort caractère et ils aiment défendre leur territoire vécu. Juste une petite carte là pour resituer donc Luynes dans le périmètre du Val-de-Loire UNESCO. Luynes a toujours voulu défendre son grand paysage, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire un paysage qui est à la fois naturel et bâti, pour défendre son cadre de vie. À Luynes, les périmètres et les horizons de vue, ils sont toujours extrêmement protégés, et malgré des vagues successives d'urbanisation à partir des années 70, n'ont jamais perturbé toutes ces lignes et ces horizons naturels. Depuis l'arrivée du maire en 2008, je contextualise un petit peu, mais c'est important. Le maire, c'est quelqu'un, le maire de Luynes, donc Bertrand Ridouré pour ne pas le nommer, est quelqu'un qui est assez amoureux de son territoire et de son patrimoine, qu'il soit bâti ou naturel. Et donc depuis 2008, dans tous les projets qu'il mène, des projets d'aménagement de ville, a toujours associé les services de l'État. Et je regarde notamment Madame Barthélémy, parce qu'elle a assisté à plusieurs de nos réunions. Et donc la ville n'a jamais perçu la consultation du service territorial de l'architecture et du patrimoine comme une contrainte, bien au contraire. Lui, il en a toujours fait une force. Et moi, arrivé en 2010 à la commune, c'était aussi la vision que j'avais. Donc tous les deux, lui en son rôle de maire et moi derrière mon bureau au quotidien avec les administrés, je n'ai eu cesse d'avoir ce message, de dire il ne faut pas diaboliser l'ABF, parce que ça je l'ai beaucoup entendu en arrivant à Luynes, mais il faut bien en faire un interlocuteur et un partenaire, parce que ce sont des personnes qui sont bien auprès du terrain, parce que ça souvent les administrés l'oublient, et qui sont là aussi pour délivrer des messages positifs. En tout cas, nous on le traduit comme tel. Ça c'était pour le contexte. Dans tout ça, en 2012, on est invité avec le maire en préfecture et Jean-Luc Tressard, à l'époque président de la mission Val-de-Loire et aussi sous-préfet de région, propose à la ville de Luynes le classement au titre des sites. Ce que le maire, évidemment, a accepté tout de suite, parce qu'il y a vu un intérêt et puis un extraordinaire challenge. Ça a surpris en fait notamment l'Adréal et monsieur Lelu qui nous suit depuis, parce que souvent les communes accueillent ça comme encore un label, encore des contraintes, alors que nous à Luynes on a ouvert grand la porte en disant oh oui, participons ensemble à la préservation et à la mise en valeur de nos beaux patrimoines. Donc l'aventure a commencé en 2012, et puis ça a permis de mettre en valeur des connectiques qui existaient déjà entre les élus des villes voisines, donc nos villes voisines à l'est et à l'ouest, mais aussi villes voisines de rive. Je pense notamment à Savonnières et à Berthenay, avec qui les élus de Luynes avaient déjà des échanges, notamment sur la batellerie, voilà. Et donc, fort de ce constat, c'est-à-dire à la fois à Luynes une ambition très forte de mise en valeur du patrimoine et constat également qu'il y avait un réseau d'acteurs qui était déjà existant, l'Adréal nous a proposé de créer un plan de paysage. Et ce plan de paysage, pardon, je me perds un peu... Un plan de paysage donc qui associerait les villes de qui un plan de paysage qui associe les villes qui font partie du site classé, sauf Fondettes, puisque Fondettes a une politique particulière en matière d'urbanisation que l'Adréal n'a pas reconnue comme volontaire dans une politique de maintien et de mise en valeur du patrimoine. Donc les 5 villes qui composent le plan de paysage, ce sont Berthenay, Saint-Genoux, Savonnières, donc nos communes voisines de Rives, et Saint-Étienne-de-Chigny. Ce plan de paysage donc est la traduction en fait opérationnelle d'engagement politique, mais aussi des habitants, puisqu'il y a tout un volet de concertation dans ce plan de paysage. Ce plan de paysage, j'ai plusieurs choses en tête, excusez-moi, j'arrive pas à mener mon exposé comme je voudrais. Ce plan de paysage-là, il est le reflet d'une volonté politique forte de créer une identité ligérienne et aussi de s'investir dans des actions opérationnelles. Cet engagement commun du plan de paysage, au-delà des actions opérationnelles, le maire de Luynes a voulu que ça ne reste pas que des mots et que toutes ces volontés puissent être portées dans un document d'urbanisme opposable qui est le PLU. Et si on remet en parallèle le fait qu'on avait, on est en cours là d'obtenir le classement au titre des sites, le décret devrait être pris en Conseil d'État là ce premier trimestre 2017, qu'on a ce plan de paysage avec des élus actifs, motivés, qui ont envie de traduire ces actions en règlement opposable. Le maire s'est dit qu'il faut aller plus loin et en effet, comme le disait Mme Barthélémy, il faut que l'identité de l'huile, avec tout son patrimoine, qu'il soit bâti ou naturel, puisse être protégée. Et donc, il a souhaité, en même temps que de réviser le PLU, lancer la création d'une AVAP pour que tout ça, ça puisse être concomitant et parfaitement cohérent. Et c'était vraiment très important pour lui de mener toutes ces actions dans un même temps, en fait, parce que tout ça, ça s'articule à l'horizon de, sur les 3-4 dernières années, quoi. La révision du PLU telle qu'on va la mener, c'est vraiment là pour intégrer toutes ces actions. Je voulais revenir un peu sur les différentes interventions qu'il y a eu. Notamment par rapport à ce qu'on disait là, juste avant sur la concertation et la façon d'associer les habitants à ce que moi j'appelle le grand paysage. Alors c'est certainement pas la bonne expression, je n'ai pas votre niveau d'expertise, mais dans le plan de paysage, on met en avant et on a vraiment souhaité demander au bureau d'études qui nous accompagne cette concertation avec les habitants. Donc à chaque phase de travail, on a des forums qui sont mis en place sur les deux rives de Loire. Et quand on assiste à ces forums, je suis là toujours comme une petite souris parce que le bureau d'études ne veut pas trop qu'il y ait d'expertise pour ne pas venir brouiller le langage des vivants et des pratiquants du territoire. Mais quand malgré tout, je discute un petit peu avec eux, avec les habitants qui sont là, évidemment, quand on parle de paysage, même si la porte d'entrée, c'est le plan de paysage et qu'on parle plutôt du paysage naturel, évidemment, l'intégration du bâti, il fait partie de ce grand paysage. Et j'aimerais penser, ou en tout cas, les premiers échanges que j'ai pu avoir là, le 28 septembre dernier, lors du premier forum, me montre que les habitants, ils sont déjà assez investis, en fait, par rapport à la réflexion sur la façon dont l'urbanisation est menée et comment le PLU peut être le reflet de leurs envies, de leurs convictions territoriales, parce qu'à Luynes, il y a beaucoup de convictions, il y a beaucoup de vieux luynois qui viennent dans mon bureau en me disant « Moi, je suis natif de Luynes, alors moi, derrière mon bureau, je peux me lever tôt pour leur apprendre des choses. » En gros, c'est un peu l'idée. Mais ils sont vraiment très imprégnés. Et alors, des fois, pour moi, en tant qu'instructeur, ça peut être vraiment gênant. Autant dans ce volet de concertation, pour moi, c'est plutôt je le vis plutôt comme une force parce qu'ils ont déjà des témoignages importants à nous livrer sur l'histoire du territoire. Et du coup, je pense que toutes les personnes qui vont se manifester là au cours de ce volet concertation par le plan paysage, c'est autant de personnes qu'on pourra solliciter quand on va parler de concertation pour le PLU. Et je pense que ça peut être une solution pour trouver des forces vives dans la réflexion autour du PLU auprès des administrés. Voilà, sur cette diapo, je renotais qu'en effet, la volonté de la ville, c'était de traduire vraiment réglementairement ces volontés multiples de protection de patrimoine naturel et bâti. Ce que je voulais noter aussi, parce que ce que je voulais dire, c'est que à Luynes, c'est pas parce que les projets ne sont pas menés actuellement dans des périmètres protégés, qu'on n'essaie pas d'y faire de la qualité. Moi, quand je traite une autorisation d'urbanisme, je ne la traite pas différemment dans mon approche, dans le conseil à l'administré, que ce soit pour un projet qui soit soumis à l'avis du STAP, qu'un projet qui n'y soit pas soumis. C'est-à-dire que je vais leur apporter vraiment le même conseil pour moi, il y a vraiment un effet miroir. C'est comme toute la politique par rapport à la VUE, etc. La Loire, elle est mise en avant parce qu'on a un bâti qui est cohérent et qui sert le propos de la Loire. Et bien là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a un périmètre futur à VAP que, au-delà de la VAP, on doit tout laisser tomber et faire des choses très moches et sans intérêt. C'est pas du tout le but. Et donc, l'objectif de ce nouveau PLU, c'est en effet d'adjoindre une AVAP, mais c'est au-delà de l'AVAP, penser quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir un territoire qui soit globalement au service du patrimoine naturel et bâti. Donc évidemment, je note dans ce slide que je pense que vous êtes un peu tous au courant de la fermeture du château de Luynes. L'objectif aujourd'hui, au travers de ce plan paysage, de cette AVAP et de ce nouveau PLU, c'est d'emmener, de guider, de nourrir une nouvelle identité à Luynes et de s'appuyer sur cette forte mise en valeur du patrimoine qui soit bâti et naturel pour réinventer, en tout cas asseoir une partie de l'identité luynoise. La volonté du maire, c'est que cette approche globale, traduite par le PLU, qui va intégrer les principes d'action du PPVL, du site classé et de la VAP, lui, il souhaite vraiment être ambassadeur de la démarche, démarche qu'il souhaite la plus globale possible. En tout cas, le maire souhaite que cette révision de PLU soit effective le plus rapidement possible pour asseoir les principes de notre identité à l'aube du futur PLUI et de manière à nous préserver un maximum de ce qui pourrait se passer. En tout cas, nous, on veut marquer bien les choses tout de suite. Voilà. Je suis désolée pour la confusion de mon exposé, mais j'étais un peu perturbée par l'auditoire. Merci.
Très embêtante, je vais tout de suite. Vous avez la chance sur Luynes d'avoir, on vous a fait les fameux blocs diagrammes de la VUE. Donc c'est une spatialisation sur le périmètre du plan de paysage, une spatialisation de ce qui relève du patrimoine mondial. Est-ce que vous utilisez cet outil? Et si oui, quand et comment? J'avais prévenu, c'était pas gentil.
Non, mais comme il n'y a pas de contraintes, toute question est bonne à prendre et il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je vais vous répondre très clairement. Au quotidien, je m'en sers pas. Maintenant, je suis tout à fait ouverte à adopter ce nouvel outil et surtout le transmettre urgemment au bureau d'études qui sera retenu pour la révision du PLU.
Oui, oui, non, excusez-moi, c'est pas à vous. Quand je dis vous, c'est la commune de Luynes. Et bien évidemment, pour instruire les dossiers d'autorisation, vous n'avez pas besoin de ce a priori. Mais quoique. Mais non, c'est surtout à transmettre à votre bureau d'études. Et ma question, c'est est-ce que le bureau d'études, parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu beaucoup de temps pour suivre, c'est vrai, le plan paysage de Luynes. Mais je me souviens d'avoir participé au mois de septembre au premier forum, qui était très bien fait d'ailleurs, très intéressant.
Merci.
Et d'avoir signalé donc ces blocs diagrammes. C'est vrai qu'il serait intéressant de, vu que là vous avez la caractérisation, la spatialisation de la VUE, du bien patrimoine mondial, il serait intéressant de voir quelles sont les réactions des habitants par rapport à cette représentation, et puis après les objectifs de qualité paysagère et patrimoniale qu'on peut en déduire. Et ça, on est à votre disposition pour pouvoir le faire.
Alors, pour répondre, ils ont utilisé un bloc diagramme, le bureau d'études, qu'ils ont positionné dans leur diagnostic. Je vais être tout à fait franche et honnête et j'ai rien à cacher. Moi, je suis pas très satisfaite par le diagnostic qui a été réalisé par notre bureau d'études parce que je pense qu'il n'est pas à la hauteur de notre site. Je leur ai dit. Monsieur Lelu leur a dit aussi. Et donc, je vais leur en faire remarque. Au prochain comité technique pour qu'ils puissent intégrer ces remarques-là pour le prochain comité de pilotage. Toutefois, pour les orientations de qualité paysagère, il est évident qu'il faudra qu'il s'appuie sur votre matière. Oui. Sur le plan paysage. Le site classé, c'est vraiment l'étude réglementaire, on va dire, qui a été lancée en 2012 par l'État, par la DREAL. Et dans le cadre de cette étude, la DREAL nous a fait la proposition de candidater pour obtenir le label plan de paysage lancé par le ministère. Et on l'a obtenu en 2015. Donc on a recruté un bureau d'études. C'est porté financièrement par l'AGLO, puisqu'on est sur 5 communes de l'AGLO, pour qu'on puisse traduire en fait en action opérante les principes du site classé.
De toute façon, l'UNE, c'est un territoire effectivement passionnant d'un point de vue patrimonial, et en plus un site à proximité un site résidentiel intéressant dans l'équilibre de l'agglomération tourangelle. Bref, il y a un enjeu patrimonial majeur. Et c'est vrai que vous avez la chance d'avoir eu des expertises de très haut niveau. Hein. Le diagnostic du site classé, il est passionnant. C'est vrai que nous, on a fait faire les blocs diagrammes qui ne sont pas dénués d'intérêt. Et que le travail que votre bureau d'études fait sur la concertation sur le plan paysage est aussi intéressant. Bon. Donc, il y a une magnifique matière pour aller jusqu'au bout, hein, en tout cas par rapport à nos objectifs patrimoine mondial, et pour effectivement définir, en concertation avec des habitants, avec les habitants, ce qu'on peut imaginer comme étant des objectifs de qualité paysagère et patrimoniale. Parce qu'une fois qu'on aura défini ça, après, vous pouvez décliner les orientations dans le PLU ou le PLUI de façon beaucoup plus aisée et cohérente. Quand l'objectif est défini, la cohérence territoriale est déclinée de même. Hein.
Mais c'est exactement pour ça qu'on a voulu mener tous ces travaux de façon parallèle. Et donc la concertation pour permettre aux habitants d'exprimer leurs souhaits dans les objectifs de qualité paysagère auront lieu sur les deux rives de Loire le 4 mars prochain à Luynes et à Savonnières.
Puisqu'on parle de concertation, je voudrais profiter de la présence de Karine Renaud qui est là-bas pour te céder la parole, pour présenter très très rapidement, mais en fait ça fait un peu écho à tout ça, la démarche de concertation qui a été mise en place sur la communauté de communes du Grand Chambord, qui est en train d'élaborer son PLUI, on en parlait encore hier avec Myriam Lédé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement là-dessus ?
Quelques mots rapides, oui. On a essayé de travailler sur une méthodologie de concertation un peu innovante, et on a fait appel à un groupement de paysagistes, architectes, qui est le groupement des Rives, qui a ses racines, il me semble, dans le milieu tourangeau. Et le groupe des Rives, en fait, a fait une odyssée sur le Grand Chambord au mois de septembre. Durant 17 jours, il a sillonné le territoire pour aller à la rencontre des habitants à vélo. Donc chaque jour, en fait, il y avait une destination précise. Et tous les soirs, dans chaque village, il y avait une rencontre avec les habitants. Ça va se traduire par une exposition qui va être présentée au mois de mars. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et en concertation avec la mission Val-de-Loire, le travail est en train de s'initier avec des Rives pour pouvoir faire une œuvre dans le paysage. Moi, je pense que ça sera certainement un belvédère autour d'un village qui est situé sur la Loire. Et donc, là encore, on essaye d'attirer l'attention de la population à travers un projet culturel qui sera en lien avec le PLUI.
Oui, à ce...
Et aussi, on aura une... Oui, tout à fait. On va mettre en place une OAP patrimoniale sur notre territoire, puisqu'en fait, on a une partie du territoire qui est ligérien.
Je me demandais, est-ce que cette approche est en lien avec le périmètre délimité des abords, enfin le périmètre étendu qui est en cours d'élaboration autour de Chambord ?
Oui. Oui, tout ça, c'est lié.
Alors, est-ce que à l'issue de cette journée riche et passionnante, vous avez des ultimes remarques avant que je clôture, et on finira à l'heure, parce que le timing a été incroyablement bien respecté, je vous en remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions générales sur la journée ou...
Une question très générale, c'est bon, tous ces éléments. Après, le groupe de recherche, comment articulez-vous tous ces éléments? Et voilà, quel travail allez-vous faire pour justement analyser et restituer, en fin de compte, parce que là, on vous apporte de la matière. OK, qu'en faites-vous?
Ben nous, on se revoit derrière et on débrief tout ça. Et on le réintègre dans nos réflexions, évidemment, sur chacun des terrains d'étude, bien sûr. Hein, l'idée, c'est d'échanger mutuellement un certain nombre de choses. Arnaud, je t'en prie, je te renvoie la balle.
L'équipe de recherche s'alimente de ses propres terrains. Pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier ou du deuxième COTEC, on a prévu par exemple d'analyser, alors ça c'est vraiment sous l'angle du document en tant que tel, les PLU de quasiment les 20 plus grandes villes de France. C'est une manière aussi d'avoir un échantillonnage objectif, en ayant bien en tête, comme l'a rappelé Stéphanie Boubi tout à l'heure et bien d'autres, c'est qu'évidemment, voilà, ça c'est un territoire particulier, s'intéresser aux villes et plutôt aux grandes villes. Et justement, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir s'intéresser à des territoires qui sont plutôt des territoires périphériques aux aires urbaines, voire des territoires ruraux. Alors, tout ça, c'est pour dire qu'on a déjà un certain nombre de territoires. Hein, donc, alors, bon, Myriam, tu as raison de poser la question, parce que nous, on vous prend de votre temps. On ressort de cette journée, je pense, avec à la fois, par exemple, des territoires sur lesquels on va aussi continuer à travailler jusqu'à la fin du programme de recherche. Bon, sachant que c'est quand même l'année 2017, puisque on y est, qui doit être une année. Je me tourne vers les quelques collègues de l'équipe qui sont présents aujourd'hui, qui doit être une année de recueil de données de manière un peu massive, parce que en 2017, il faut vraiment qu'on puisse à la fois faire l'analyse d'un certain nombre de documents, idéalement sur certains des territoires, dans une approche un petit peu historique, c'est-à-dire pas être sur le document qui est en cours d'élaboration ou qui vient d'être adopté, mais pouvoir aussi remonter, donc par exemple, sur le cas qu'on a eu à Noyers-Maupertuis, de pouvoir à la fois analyser, par exemple, le document qui a été réactivé, puis le document qui a été annulé. Voilà, alors, ça, c'est l'analyse des documents. Mais ce dont on a parlé à l'instant, ça, c'est les jeux d'acteurs, la gouvernance, à l'aide d'un certain nombre de sources d'informations, des entretiens, les articles de presse, enfin, voilà. Donc, on va essayer de faire, donc, pour la fin de l'année, au moins un certain nombre de monographies par site qu'on va étudier. Et puis, on est en train aussi de travailler à... Alors ça, c'est plutôt pour la valorisation dite académique. On est en train de travailler, donc depuis le dernier comité de pilotage qu'on a eu là en novembre à Angers, à la valorisation sous forme de... Je ne sais pas comment dire, d'indicateurs de la patrimonialité d'un PLU. Donc ça, c'est compliqué parce que, évidemment, et il n'est pas exclu qu'on vous demande de jeter un œil sur des formes graphiques, par exemple, de cette patrimonialité d'un PLU. Parce que, bien sûr, il y a du texte, mais ce qui serait intéressant, c'est d'arriver, par exemple, à rentrer ça dans un espèce de schéma qui permette de dire... ce PLU, par exemple, identifie beaucoup de patrimoine, mais le protège peu, ou en identifie peu, mais le protège beaucoup. Mais protège, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, c'est à nous d'arriver à rentrer tout ça dans des outils. L'idée du programme de recherche étant à la fin de pouvoir aboutir à une sorte de portrait robot du PLU patrimonial. Ce serait quoi? Mais en fait, ce serait quoi en termes de bonnes pratiques, en termes peut-être de passage obligé, mais un passage obligé quand même à géométrie variable, parce que entre une petite commune de 2500 habitants et puis la ville de Lyon ou de Bordeaux, on en parlait d'ailleurs aussi. Enfin, il y a pas que ça, il y a pas que l'ingénierie territoriale, il y a pas que la surface du territoire, il y a plein d'autres paramètres. Alors voilà, donc pour la fin de l'année. Attention, parce que c'est enregistré, donc devant témoins. Bon, on voudrait vous présenter des premiers résultats de recherche formalisée sur l'analyse de territoire et de PLU. Voilà, c'est-à-dire comment ça s'est fabriqué, comment ça s'est construit, à quoi on a abouti, et de manière qualitative, est-ce que c'est un PLU patrimonial ou pas, sachant que j'ai noté par exemple les réticences de Stéphanie Boubli tout à l'heure à employer l'expression de PLU patrimonial, hein, parce que on parlait aussi du rôle des mots, voilà. Alors je ne sais pas si Myriam, je réponds quand même à ta question.
Oui, moi, pour poursuivre là-dessus, c'est vrai que c'était très intéressant. Je reste un tout petit peu sur ma faim parce que, par exemple, pour dresser le portrait robot, si la finalité, c'est de dresser un portrait robot d'un PLU patrimonial, moi, je serais très intéressée pour ne pas restreindre l'étude à l'étude du document, des documents PLU, mais à englober aussi l'étude de l'application de ce document, justement pour voir si, effectivement, le PLU dit patrimonial, il identifie beaucoup et il protège beaucoup ou pas, et comment les intentions sont traduites dans l'application du droit des sols qui en résulte. Parce que, ben, d'après moi, c'est quand même là la finalité première et c'est ça qui doit être examiné en termes d'efficacité du PLU et donc du PLU patrimonial.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire par des séries d'entretiens sur un certain nombre de terrains où on va aller plus loin que l'analyse textuelle. C'est l'objectif. L'analyse textuelle, on l'a fait sur un certain nombre de cas. Et sur d'autres cas, où on les suit de près quand c'est une élaboration, c'est ce qu'on a fait à La Riche, c'est ce qu'on est en train de faire sur le Grand Chambord où donc on suit l'élaboration du document. Et après, sur d'autres terrains, on va faire des entretiens, notamment avec les services de l'État, avec les services municipaux, pour savoir comment le règlement est appliqué, qu'est-ce qui pose problème. Donc oui, c'est quelque chose qu'on intègre.
Une petite question. Dans votre objet de travail, est-ce qu'il y a aussi le PLUI ? On dit PLU... Oui, ça inclut, quand on dit PLU patrimonial, ça inclut aussi les PLUI.
Oui, alors c'est vrai que par raccourci de langage, on dit toujours PLU. Mais par exemple, on travaille sur le nouveau PLUI qui va être approuvé dans quelques jours d'Angers-Loire Métropole, en remontant aussi... oui, voilà. Alors, voilà, donc bien sûr, la réponse est oui, on dit toujours PLU. Ce qui nous intéressera d'ailleurs aussi, peut-être qu'on aura à peine le temps de les intégrer dans le programme de recherche, même si on a un temps long à la base, c'est de pouvoir à un moment intégrer vraiment des nouveaux PLU, nouvelles formules, c'est-à-dire telles qu'on peut les rédiger depuis le début de l'année 2016. Je crois que c'est Adrienne Barthélémy qui s'y référait tout à l'heure. C'est-à-dire que, là, pour le moment, on n'en a pas, je pense, encore dans notre échantillonnage, des PLU qui se dispenseraient carrément de règlements sur certaines parties de territoire. À demain. Ouais, tout à l'heure. Voilà. Et donc ça, on verra si on peut les intégrer en cours de route. Ce sera du PLU ou du PLUI, mais non, logiquement plus souvent du PLUI. C'est une manière de répondre.
Les départs commençant à poindre leur boule de nez. Juste quelques mots pour conclure avant que Carnot nous montre une très très courte vidéo de quelques secondes. Je parle avant. Non, juste quelques remerciements rapides. D'abord, remercier la faculté de droit d'économie des sciences sociales de l'université de Tours qui nous a accueillis dans ses locaux cet après-midi. Je voudrais remercier aussi donc le laboratoire CITER et notamment ses gestionnaires et je pense à Séverine Fromio grâce à qui on a pu déjeuner ce midi parce qu'elle gère l'installation, le rangement, etc. Donc c'est important. La Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire et notamment Jean-Philippe Corbellini qui est resté debout toute la journée en fait. Et ça voilà. Et grâce à qui on pourra avoir non seulement ce qu'on va travailler dessus derrière, une balade montée et disponible en ligne, et puis je pense aussi un compte-rendu vidéo de cet après-midi qu'on va mettre aussi en ligne sur lesquels on va travailler. Et puis, n'oubliez pas de donner vos petites feuilles, justement, pour éviter que ça lui donne du travail en plus à flouter vos visages. C'est pas très sympa pour lui et pour nous. Je laisse à votre disposition, il y a quelques plaquettes de présentation du programme de recherche qui seront à l'entrée si jamais certains d'entre vous les ont pas eues. Et enfin, l'annonce du prochain comité technique qui aura lieu le 16 juin à Angers. Et qui sera un peu un COTEC thématisé, ce coup-ci, thématisé paysage, puisqu'il sera raccroché à un colloque sur le paysage dont Arnaud va vous montrer le teaser, en fait.
Voilà. Le programme étant en cours de fabrication, j'espère en ligne au 1er mars. Donc, pour le moment, vous avez juste une mise en bouche qui, j'espère, vous attirera sur les bords de Loire. On a beaucoup parlé de toute façon du patrimoine mondial aujourd'hui du Val de Loire et du paysage. Donc, c'était, je veux pas dire que c'était un COTEC déjà thématisé aujourd'hui sur le paysage, mais finalement, il s'est beaucoup invité dans nos débats. Donc voilà, le 15 juin, c'est le colloque que j'organise tous les deux ans. Dans la thématique droit et gouvernance du patrimoine architectural et paysager. Donc là, c'est la 4e édition. Et donc ça, c'est le 15 juin. Ça n'a pas de rapport direct avec le programme de l'ANR, mais avec des partenaires avec lesquels on va construire ça. Donc bien sûr, Angéloire Métropole et la mission Val de Loire et sûrement quelques autres. Donc le lendemain, il y aura un atelier de terrain qui nous servira d'atelier pour le prochain comité technique. Donc voilà. Et donc pour ceux qui connaîtraient pas, pour ceux qui viennent de Lyon ou de Bordeaux, un peu de Loire, entre autres.